Françoise Barrier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invitée du jour pour l'émission Point de vue à l'occasion du 10e Salon international des arts premiers qui se déroule à Paris du 7 au 11 septembre 2011. Rappelons pour les auditeurs que vous êtes l'organisatrice de ce salon Parcours des mondes et que vous êtes également la directrice de publication du magnifique magazine Art Tribal. Et depuis 2008, vous entendez faire de Paris la capitale incontournable de ceux qui s'intéressent aux arts premiers. Alors, peut-être pour commencer, quelle serait votre définition, tout simplement, des arts premiers ?
Une définition, c'est toujours difficile à donner parce que c'est vrai que le domaine des arts premiers est un domaine particulièrement large, mais on peut le définir notamment en disant qu'il s'agit des arts d'Afrique, d'Océanie, d'Asie et des Amériques. Et on peut aussi le définir en excluant tout ce qui va être culture traditionnelle ancienne. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui est tribal, donc tout ce qui est culture plutôt populaire, mais toute la partie ancienne, donc tout ce qui va remonter généralement avant le 19e siècle, va être écartée de la définition d'art premier.
Donc là, c'est un salon qui va donner à voir vraiment des œuvres ou des objets. Comment vous les qualifiez ?
Je pense que c'est absolument, on peut les qualifier des deux manières, parce que c'est vrai qu'on va trouver des œuvres qui sont des œuvres d'art incontestables, et je pense que n'importe quel amateur, et même n'importe quel curieux, en découvrant une de ces œuvres, va être extrêmement ému. Et puis de l'autre côté, on va aussi découvrir des objets qui sont plus simples, qui sont des objets du quotidien, mais dont la forme va peut-être étonner la personne qui ne les connaît pas, et qui vont être sculptés avec une sensibilité qui caractérise justement souvent les arts premiers.
Il y a une esthétique particulière là parmi toutes les œuvres exposées qui touchent le visiteur.
Absolument. Je pense que c'est vrai quand on dit que les arts premiers ont vraiment influencé les grands artistes modernes, les Picasso, les Vlaminck, les Derain. C'est vrai que quand on découvre les œuvres, tout d'un coup saute aux yeux ce fameux cubisme dans les formes, ce détail souvent pour une surface qui va être parfois très brute, parfois très patinée. Et donc, c'est vrai qu'on a des expressions artistiques qui sont extrêmement variées et puis qui sont souvent extrêmement surprenantes aussi. C'est vraiment le salon de la découverte.
Alors, quelle est la particularité justement de ce salon hors les murs qui occupe le quartier de Saint-Germain-des-Prés pendant quelques jours ?
L'idée en fait du Parcours des mondes, c'était de se servir, entre guillemets, de la concentration tout à fait exceptionnelle de galeries de très très haut niveau dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Qui sont là depuis très longtemps.
Qui sont là absolument. Donc, il y a un côté historique, c'est-à-dire que le quartier de Saint-Germain-des-Prés, depuis la découverte, on va dire, des arts premiers qu'on pourrait déplacer dans les années 20, s'est faite à Paris, avec des marchands extrêmement connus, des Paul Guillaume et autres personnages comme les Vérités. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on trouve dans la rue des Beaux-Arts, la rue Mazarine, la rue de Seine et la petite rue Jacques Callot ou Visconti, absolument, des galeries telles Alain de Montbrison, Bernard Dulon, Yann Ferrandin aujourd'hui, qui sont vraiment parmi les plus grandes figures. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est dit, faisons un parcours des mondes qui soit plus divers, c'est-à-dire que c'est difficile de faire un salon seulement avec les galeries qui sont déjà sur place, parce que où serait l'événement, d'une certaine manière. Donc invitons à les rejoindre les meilleures galeries internationales. Alors, on a entendu par galerie internationale, forcément les galeries belges, puisque c'est la deuxième capitale, on va dire, des arts premiers, mais aussi des galeries suisses, allemandes, hollandaises ou encore américaines.
Et américaines. Donc, on vient des quatre coins du monde.
Absolument.
Pour exposer des œuvres.
Tout à fait.
Vous avez cette année 64 participants, à peu près la moitié de galeries étrangers.
Étrangers.
Et donc, les galeries habituelles de Saint-Germain-des-Prés louent leur galerie pour l'événement.
Voilà, tout à fait. Donc, les galeries qui présentent généralement de l'art moderne ou du mobilier Art déco vont vider leur espace le temps d'une semaine et inviter effectivement des pièces d'art primitif à occuper les lieux. Alors des fois, ce qui est intéressant, c'est que toutes les pièces de la galerie précédente ne partent pas et donc on peut avoir des confrontations particulièrement intéressantes, notamment, comme ça s'est déjà passé, entre Bernard de Grune, qui est un galeriste belge, et la galerie Patrice Trigano, où tout d'un coup, on crée un dialogue entre des œuvres modernes et des pièces d'art premier.
Vous avez aussi, cette année, sur le Parcours des mondes, une trentaine d'expositions thématiques. Les années précédentes, on avait un thème général.
Oui, c'est-à-dire
là,
que les années...
Vous avez un petit peu changé.
Oui, les années précédentes, ce qu'on avait fait, on avait développé un partenariat avec la Monnaie de Paris qui nous avait ouvert en fait leur espace d'exposition pour qu'on puisse présenter des expositions thématiques.
Qui ont été de formidables expositions. Hein. Je le dis vraiment par coup de cœur, c'était de très, très, très belles expositions. Cette année, il n'y en a pas.
Voilà, cette année, ce n'était pas possible malheureusement puisque la Monnaie de Paris est en travaux et c'est vrai qu'on voulait aussi garder cette proximité. C'est-à-dire pour nous, c'était difficile de créer une exposition qui soit trop loin du quartier parce que c'est vraiment le quartier qui nous intéresse. Donc c'est vrai qu'on a essayé de pousser un petit peu les marchands à eux créer l'événement justement.
L'événement.
Et ils ont répondu de manière, j'avoue, assez splendide parce que bon, on organise effectivement l'événement en amont. Mais là, ça fait 2 jours que je suis sur le parcours et que je découvre ces expositions. Et j'avoue que je suis moi-même tout à fait bluffée. Il y a des expositions, par exemple celle de Yann Ferrandin sur les quotas, qui est réellement d'un niveau muséal, tant d'un point de vue de la scénographie que d'un point de vue des œuvres qui sont exposées. Et ça n'est pas la seule.
Alors, c'est effectivement une des galeries pas les plus classiques, je ne sais pas comment la qualifier, mais des plus réputées. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement ce qu'il a choisi d'exposer cette année ?
Mais Yann Ferrandin...
Et un peu sa particularité.
Oui, tout à fait. Appartient à ce qu'on va appeler la nouvelle génération de marchands. Donc, c'est vrai qu'on a différents types de moyenne d'âge, on va dire, dans les marchands qui participent au salon. Yann est quelqu'un d'assez jeune et qui a toujours mis un point d'honneur à faire des présentations extrêmement sélectionnées. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, là, dans ce cas précis, ça fait plus d'une dizaine d'années, qu'il met de côté très patiemment des œuvres en vue d'une exposition thématique. Donc là, il nous présente les figures de reliquaires quota. Je pense que ça vous dit peut-être quelque chose et ça dira peut-être quelque chose à vos auditeurs. Donc ce sont ces sortes de visages dorés avec un regard extrêmement puissant qui surmontaient autrefois des paniers contenant des ossements de personnages importants. Et il a donc été les chiner dans des collections privées pendant 10 ans pour finalement les réunir en les mettant sous une lumière qu'il a spécialement fait installer.
Avec des tissus pour les séparer.
Absolument.
Il laisse voir par transparence justement le métal légèrement. C'est très beau. Oui.
Et c'est assez osé parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on les présente de cette manière, c'est-à-dire qu'une lumière extrêmement délicate et qui, comme le disait Yann Ferrandin, est censée rappeler la lumière de la pleine lune, puisque c'était pendant les nuits de pleine lune que les figures de reliquaires étaient sorties.
Ah oui, ce sont vraiment de très beaux événements qui sont donnés à voir là au public, qu'on invite à venir parcourir les rues de Saint-Germain-des-Prés. Françoise Barrier, diriez-vous que le parcours des mondes est classique ou novateur ?
Je pense qu'il est plutôt novateur. Il est plutôt novateur parce qu'il est novateur par sa forme. Et c'est vrai que l'idée du salon hors les murs, ça existe déjà un petit peu dans le quartier, mais ça n'existe pas avec cette invitation qui est donnée à ces galeristes étrangers. Et je pense qu'il est vraiment fondamental, notamment pour le public, parce qu'évidemment, chaque nouveau galeriste qui va venir du Canada, d'Australie, va amener aussi avec lui son groupe de collectionneurs. Donc je pense que ça, c'est d'un point de vue de la formule, même directement, c'est novateur. Et puis après, on est dans un domaine qui reste nouveau. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les arts premiers, on est encore en train aujourd'hui d'en définir l'histoire de l'art. On est en train d'en redécouvrir les provenances. Donc c'est vrai qu'on est dans un domaine de pointe, d'une certaine manière.
Pensez-vous que les arts premiers ont trouvé leur public ?
Je pense qu'ils sont en train de le découvrir. Ils sont vraiment en train de le découvrir et je crois que l'ouverture du musée du Quai Branly en France a été fondamentale pour cette reconnaissance. Je pense que tout le monde l'a senti, qu'il s'agisse effectivement, comme nous, d'organisateurs de salons, d'événements, des galeristes et même du grand public. Tout d'un coup, les arts premiers ne sont plus la représentation de l'étrange. Ils appartiennent maintenant au paysage culturel français et européen et on commence à les apprécier pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des objets qu'on n'a pas forcément besoin de classifier. Ce ne sont pas forcément des œuvres d'art pour tout le monde, ce ne sont pas non plus des œuvres artisanales. C'est un vrai mélange entre les deux et on est vraiment en train de le découvrir.
En pleine évolution.
Absolument.
En fait. Alors, les collectionneurs d'art premiers et les marchands d'art font un travail de fond souvent ignoré du public. Et c'est l'un des grands mérites de Parcours des Mondes, je trouve, de montrer justement chaque année un petit peu la qualité de ce travail et aussi toutes les recherches qui sont menées dans ce domaine. Alors cette année, l'an dernier, c'était un film qui avait été un film magique,
aussi,
voilà, qui avait été exhumé, j'allais dire, et mis
tout
à l'honneur.
À
cette année, pour montrer en fait justement ce travail de fond, vous avez choisi de faire de Jim Ross le président d'honneur de votre salon. Alors, pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait de particulier, Jim Ross ? Parce que c'est un collectionneur, un chercheur un peu à part.
Ah, tout à fait, tout à fait. Jim Ross, c'est quelqu'un que tout le milieu des arts premiers apprécie énormément, tant pour son œil, donc c'est-à-dire, c'est vrai, pour la qualité de sa collection. Jim Ross est américain et c'est vrai qu'on peut dire qu'il possède aujourd'hui la plus belle et la plus intéressante collection d'art africain. Ensuite, c'est quelqu'un qu'on apprécie tous énormément parce qu'il prête ses œuvres. C'est-à-dire que c'est un collectionneur qui aime partager. Donc c'est vrai qu'on va voir ses œuvres. Ses œuvres sont venues au Quai Branly lors de certaines expositions thématiques comme celle du Congo. Il faisait partie d'ailleurs des pièces les plus remarquables. Et d'autre part, il a eu un rôle de mécène auprès de l'université de Yale, donc aux États-Unis.
C'est extraordinaire cette aventure.
Ah, c'est un travail tout à fait novateur justement, on y revient. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a voulu justement toujours se documenter sur ses objets. Donc il a constitué une bibliothèque qui est absolument immense, je pense, qui est sans doute meilleure même que la bibliothèque de l'université de Yale. Et ce qu'il a décidé de faire, c'était de rendre accessible au public toutes les reproductions d'œuvres d'art africains qui ont été publiées dans tout type d'ouvrage avant 1920. Alors évidemment, le projet ne s'arrête pas là, puisque donc il y a un scan de toutes ces photographies, mais ensuite il y a une étude qui va être faite de toutes ces photographies, essayer de comprendre où est-ce qu'elles ont été prises, essayer de voir si des objets se répètent. Et en même temps, c'est un site internet qui fait aussi appel à la contribution d'autres chercheurs. Donc on a de jeunes conservateurs.
Il y a une mise en réseau.
Tout à fait, une vraie mise en réseau. Et maintenant, tout le monde peut aller voir cette base de données et chercher justement quand est-ce que pour la première fois un certain type d'objet va avoir été publié.
Voilà.
Donc pour nous, c'était un vrai honneur qu'il accepte cette présidence justement du Parcours des Mondes, parce qu'il a dépassé justement le simple cadre de la collection en devenant un acteur du développement de la connaissance.
Le public est invité à consulter même ces bases de données.
Tout à fait.
Donc, ça, c'est aussi un petit plus du Parcours des Mondes.
Oui, absolument. C'est vrai qu'on aime bien offrir au public des outils pour se renseigner, pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Donc à notre point information qui est situé au 72 rue Mazarine, on a mis en place deux petits écrans d'ordinateur qui permettent effectivement au public d'aller découvrir les bases de données qui ont été créées par Jim Ross. Et on aura dans les jours qui viennent quelques présentations aussi qui seront faites par l'archiviste de ces bases de données.
Donc un parcours qui s'adresse aussi vraiment aux étudiants d'art.
Absolument.
Et aux collectionneurs, aux amateurs, à tout le monde. Mais il y a vraiment une réponse à ces publics variés. Et Parcours des Mondes offre, comme d'habitude, j'allais dire, une grande diversité d'expressions des arts premiers. Peut-être pourriez-vous choisir ou sélectionner deux objets particulièrement beaux qui vous émeuvent.
Particulièrement,
oui. Françoise Barrier.
C'est très difficile parce que bon, on a ses propres intérêts et ses propres goûts aussi. Mais je pense que de toutes les façons, il y a la galerie FLA qui fait depuis toujours un effort vraiment poussé pour justement offrir des présentations qui sont thématiques mais à la fois didactiques. Et cette année, elle a décidé de faire une exposition sur la Polynésie. Et la Polynésie, c'est un domaine qui n'est pas évident. Et ils ont choisi notamment de présenter un petit éventail des îles Marquises, qui est donc un petit éventail tressé dont le manche est réalisé dans une dent de cachalot sculptée et qui est un des rares exemplaires conservés aujourd'hui dans un état de conservation quasiment intact. C'est-à-dire que c'est un objet qui date du XVIIIe siècle, qui a été rapporté par un marin sans doute français et qui depuis a été conservé en France. C'est-à-dire qu'il reposait dans une maison une petite maison familiale. Et finalement, l'objet a été exhumé et maintenant la galerie FLAC a entrepris tout un travail d'étude. Donc elle a aussi commandité certains experts à regarder l'objet, à essayer de comprendre comment le tissage était fait et ce que la sculpture pouvait signifier. Et donc, je trouve que c'est un des objets importants de
Gauguin
ce parcours.
Gauguin aurait-il pu l'avoir entre ses mains?
Je ne sais pas. Mais en tout cas, il l'aurait beaucoup apprécié, ça c'est sûr.
Et comme autre objet, qu'est-ce que vous pourriez nous présenter de différent?
Oui, je pense que c'est intéressant aussi de parler d'objets qui viennent d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'amis belges qui se joignent donc aux galeristes français, et notamment Bernard de Grune, qui est vraiment devenu aussi un grand nom dans le domaine, et qui nous amène, ce qui est assez caractéristique de la Belgique, un superbe sabre rituel Congo, donc de l'ancien Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, qui est un objet qui va nous rappeler d'une certaine manière des œuvres quasiment renaissance. C'est vrai qu'il y a une délicatesse dans la sculpture qui est tout à fait super, puisque donc c'est un sabre en métal, le métal, rappelons-le, qui a été importé par les premiers occidentaux à toucher les côtes africaines, et qui est surmonté d'une petite figure sans doute d'esclave, puisque c'est une figure qui porte les mains croisées dans son dos, mais qui a une expression d'une dignité assez émouvante, et puis avec ce qu'on appelle la patine. Alors ça, la patine, c'est ce qui est assez caractéristique du domaine des arts premiers, qui est en fait cette érosion de la surface qui est due en fait à un maniement répété. Et donc sur cette petite œuvre, on voit cette petite figure en ivoire avec une patine riche et profonde qui montre que ça a été un objet sans doute très important dans sa culture d'origine.
Bon, les arts premiers se portent bien.
Très bien.
Le marché des arts premiers aussi.
Tout à fait. Il est en train de se développer. C'est vrai qu'on est en train d'atteindre des records de vente qui, évidemment, ne seront pas encore ce qu'on découvre dans l'art moderne, mais tout de même, c'est-à-dire qu'on sent que c'est en train de monter, absolument.
Alors, invitons les Parisiens, les
absolument.
Touristes, les gens de province et d'Europe à venir justement voir toutes ces œuvres.
Se faire plaisir.
Au 10e Salon international des arts premiers Parcours des Mondes, dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine, rue Visconti, Mazarine, Guénéo, en ai-je oublié ?
Beaux-Arts.
Beaux-Arts.
Jacques Callot et Visconti.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous pour votre accueil.
De rien.
Au revoir.